France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Deux livres parus cet automne, deux approches pour un phénomène commun, l'extrême droite. Comment la décrire, comment la comprendre, comment saisir ses mutations, ses régénérescences successives, ses permanences singulières. Le premier de ces ouvrages est sous la direction de Baptiste Roger Lacan. Il opte pour le temps long, pour l'histoire, pour l'amplitude, pour le travail collectif qui permet de multiplier les angles et les points de compréhension. Le second fait un autre pari, celui de la sociologie et de la rencontre intime avec un homme, Kylian, qui prévoyait d'attaquer sur le territoire français des dizaines de mosquées, de restaurants ou de responsables politiques. Ce soir, donc, nous avons fait le choix de les faire dialoguer, de les faire débattre, à l'heure où l'extrême droite subit des mutations profondes, complexes, en France et dans le monde, au moment où ses idées gagnent de l'ampleur, où ses projections électorales sont positives, où sa violence continue de menacer et de frapper. Deux invités, donc, Baptiste Roger Lacan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien enseignant à l'Institut catholique de Paris ainsi qu'à Sciences Po Paris. Vous avez dirigé l'ouvrage que j'évoquais intitulé « Nouvelle histoire de l'extrême droite, France 1780-2025 ». C'est aux éditions du Seuil. Face à vous, Eliamine Setoul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques au Conservatoire des Arts et Métiers, responsable d'un programme autour des radicalisations, on y reviendra, et l'auteur de cet ouvrage intitulé « Suprémaciste, anatomie d'un parcours d'ultra-droite ». C'est aux éditions Université Cité, Paris Cité. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Bon, alors d'abord, nous ne sommes pas d'extrême droite. Donc, il y a sûrement des extrêmes droites, mais nous n'en faisons pas partie.
Oh, c'est ça. Ouais. Moi aussi, je suis néo-nazi, alors. Hein. Parce que moi, j'ai parlé avec certains d'eux, des jeunes, hein, ils n'étaient pas plus néo-nazis que moi. Hein. Ils ont arrêté de dire n'importe quoi. Il n'y avait pas de néo-nazis dans nos rangs. Rien du tout.
C'est pas être un parti d'extrême droite que de dire ça. L'extrême droite, vous savez, si vous connaissez l'histoire, conteste les institutions. C'est pas du tout notre cas. Fait appel à une certaine forme de violence. C'est pas du tout notre cas.
Les gens qui voient mes reportages le savent très bien. Il n'y a pas une once d'extrémisme en moi. Ou alors, si je suis quelqu'un d'extrême, tout le monde l'est en France. Et extrême droite, non.
Les voix de Marine Le Pen, un témoignage anonyme, Sébastien Chenu, le journaliste Vincent Lapierre. Et pour commencer peut-être avec vous, Baptiste Roger Lacan, lorsqu'on entend ces quatre personnes, comment considérer l'extrême droite? Est-ce qu'il s'agit d'une catégorie de la science politique ou bien c'est un stigmate que ses adversaires adressent à celles et ceux qu'ils voudraient décrédibiliser?
C'est un peu les deux à la fois et c'est tout le problème pour les chercheurs. C'est évidemment une catégorie de l'histoire et de la science politique depuis la fin du 19e siècle et qui gagne en importance. Et puis de l'autre côté, depuis 1945, et pour des raisons qu'on comprend très bien quand on considère l'histoire du nazisme, du fascisme et puis de toutes les dictatures nationalistes qui ont prospéré en Europe dans les années 20, 30 et puis évidemment jusqu'en 45, c'est devenu un stigmate qui, dans le champ politique, désigne l'ennemi. Ça désigne ce qui est politiquement inacceptable. Et donc ça crée une zone de flou qui, je pense, complexifie le travail du chercheur. D'une part, parce que on voit bien qu'on se retrouve face à une catégorie qui est très vivante et qui est l'objet de débats qui sont pris en charge dans le champ politique. Et puis parce que des groupes qui sont d'extrême droite, qui selon toutes les définitions, il y en a beaucoup, je pense qu'on y reviendra, qu'on peut proposer de la mouvance, refusent cette catégorie. Là, on évoque, Marine Le Pen le disait, mais son père avant elle, qui était peut-être encore plus clairement, évidemment, d'extrême droite, récusait aussi le terme.
Il se disait de droite nationale ou se revendiquait de la vraie droite.
Exactement. Et il récusait l'idée d'extrême droite, disant qu'il y avait, c'était associé à l'idée de violence. Donc, clairement, il y avait chez lui une tentative de mettre à distance un héritage que, par ailleurs, il revendiquait. Il y a l'idée que ça ne profite pas électoralement de se revendiquer d'extrême droite. Ça dit aussi quelque chose quand même des partis d'extrême droite qui, historiquement, ont tendance, effectivement, c'est pas seulement de la tactique, c'est aussi, je pense, un trait de la relation qu'ils entretiennent aux droites où une grande partie de l'extrême droite considère qu'elle est la vraie droite, qu'elle est la seule qui n'a pas trahi, qui s'est pas compromise avec le jeu démocratique, qui s'est pas compromise avec un jeu démocratique qui est pipé en faveur de la gauche et donc qui aurait commis une erreur, la droite gouvernementale commettrait une erreur tactique.
Eliamine Setoul, cet homme que vous avez suivi, Kylian, est-ce qu'il se revendique lui-même d'extrême droite? Comment est-ce qu'il aborde cette catégorie complexe?
Non, je rejoins Baptiste. Lui se considère comme un militant de la vraie droite. Donc c'est quelqu'un
qui considère qu'en fait la vraie droite, c'est cette droite nationaliste, obsédée par la pureté identitaire, qui s'inscrit dans une nostalgie un peu d'un ordre perdu, et puis un culte aussi de l'unité organique, cette idée que la société doit être pure, unifiée, etc. Ça, c'est quelque chose, je pense, un invariant de nombreux mouvements d'extrême droite.
Je vous cite Baptiste Roger Lacan, introduction de cet ouvrage « Nouvelle histoire de l'extrême droite ». Quel rapport entre les contre-révolutionnaires de l'Assemblée constituante, l'armée des émigrés, les ultras de la Restauration, les boulangistes devenus anti-Dreyfusards, les mille nuances du fascisme français, les pétainistes, les collaborationnistes et plus proches de nous, le Rassemblement national bien sûr, mais aussi Reconquête et des mouvements groupusculaires comme les identitaires, fin de citation. Alors je vous pose la question, quel rapport ?
Mais il y a quand même plusieurs choses. Alors effectivement, ce qui frappe au départ, c'est la diversité, une diversité de mouvements, une diversité dans le temps aussi. Ces gens réagissent à des contextes qui sont extrêmement variés, mais il y a quand même, alors, ce qu'évoquait Yamine, sur ce côté organici, ce rapport à une société qu'on pense comme close, fermée, unie, basée sur une identité qui peut être fondée sur la culture, sur la race, sur la religion. Ça varie selon les époques, selon la couleur de peau. Un refus de la notion d'égalité, qui peut varier dans le temps, ça peut être revendiquer les castes, ou ça peut être revendiquer des inégalités entre les cultures et les civilisations, mais il y a toujours cette idée qu'il n'y a pas d'égalité absolue, que c'est pas un universel. Un refus de la liberté politique, en tout cas un malaise face aux libertés politiques, qui peut s'étendre en fait et qui s'étend très souvent aux libertés économiques. On remarque quand même que l'extrême droite est tendanciellement assez antilibéral dans tous les à tout point de vue, et puis un rapport à la violence et à l'autorité qui se recompose selon les périodes, mais une certaine décomplexion face à l'idée que la violence est un outil à minima dont on peut faire usage en politique. Et puis, dans certains cas, on évoquait les mille nuances du fascisme français, l'idée que la violence est même transformatrice, en fait, qu'elle révèle l'homme et que c'est en se battant, en combattant pour son groupe, pour sa communauté, et en combattant donc contre les adversaires de l'extérieur ou les ennemis de l'intérieur, que ce soit les juifs, les francs-maçons, les musulmans, que la violence est transformatrice, en fait, qu'elle transcende le groupe et qu'elle permet de le restaurer en quelque chose.
Est-ce qu'il existe, Yamine Setoul, une définition de cette catégorie d'extrême droite ? On a quand même l'impression que c'est compliqué de trouver, de circonscrire une définition unique qui nous permettrait d'isoler le phénomène.
C'est très compliqué parce que je pense que c'est évolutif en fait en fonction des sociétés. Comme ça a été dit, fin 19e siècle, début 20e, c'était beaucoup les juifs, par exemple, le bouc émissaire. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup plus les communistes, par exemple. Donc il y a toujours la désignation d'un bouc émissaire responsable de tous les maux de la société, MAUX. Et je pense que les trois invariants, que j'ai pu observer, c'est d'une part ce culte un peu de l'unité organique. On est une société pure et on reste entre nous. Cette obsession de la pureté identitaire. Et puis la nostalgie de l'ordre perdu. Alors au 19e siècle, c'était la nostalgie un petit peu de la royauté. Et puis aujourd'hui, moi dans les mouvements que j'ai pu voir aujourd'hui sur l'ultra-droite, c'est beaucoup une nostalgie plus ancienne, notamment tout ce qui est imaginaire des croisades, des templiers, une Europe chrétienne, blanche, etc. C'est très très présent dans la propagande de ces mouvances.
Il y a une autre donnée peut-être qui caractérise l'extrême droite, Baptiste Roger Lacan, c'est ce sentiment dont elle est persuadée qu'il faudrait éveiller les consciences, celles et ceux qui ne seraient pas encore éveillés dans la société, qui ne mesureraient pas l'ampleur des dégâts, avec des guillemets, l'ampleur du réel. Il y a dans cette vidéo qui a été proposée par le média d'extrême droite intitulée Frontières, qui lance une nouvelle émission qui s'intitule Pilule rouge. La pilule rouge dans Matrice, c'est cette pilule que l'on prend justement pour se révéler à soi-même la réalité du monde. Est-ce que cela, c'est un invariant dans l'histoire de l'extrême droite, cette volonté, j'allais dire, d'ouvrir les yeux à celles et ceux qui ne verraient pas ?
En tout cas, l'idée qu'on serait une avant-garde, oui, ça c'est très présent. Et ça, on le retrouve dès la Révolution française. On voit que certains, alors pas dans les mobilisations immédiates, spontanées, qu'on retrouve que ce soit dans l'aristocratie ou dans les catégories populaires à l'Ouest, mais chez les premiers doctrinaires de la contre-révolution, il y a clairement cette idée qu'ils identifient quelque chose et que ce qu'ils écrivent doit proposer, initier un changement dans la manière dont on garde la rupture que constitue la Révolution française. Et cette idée d'avant-garde, on la retrouve ensuite en permanence. On la retrouve très fort à l'Action française, où il y a vraiment l'idée que le magistère de Charles Maurras est là pour éclairer. D'ailleurs, souvent, cette idée qu'on se convertit, qu'on entre en extrême droite, alors qu'en réalité, quand on observe l'histoire de l'extrême droite sur le temps long, et Eliamine le montre d'ailleurs très bien dans son livre, on voit à quel point il y a des effets de généalogie qui sont forts, que ce soit des généalogies de sang, quasiment, enfin, de ce qu'on hérite au sein de sa famille, et des choses qu'on reconstruit. On va chercher des héritages en permanence, c'est-à-dire que c'était intéressant, là, quand on évoquait les boucs émissaires, moi, ce qui me fascine, c'est à quel point les haines, mais aussi les références historiques sont juxtaposées, c'est-à-dire que chaque génération constitue son propre corpus de haine et de référence. Et en fait, ça disparaît pas. On voit que ça s'accumule. C'est-à-dire que la haine des Juifs, elle est peut-être un peu moins visible aujourd'hui que la haine des immigrés africains et nord-africains. Mais en réalité, elle a pas disparu. Et il en va de même pour les références. La référence au Moyen-Âge a été déjà très présente au 19e siècle au sein de la mouvance des catholiques intransigeants.
Ça fonctionne par strates, vous
exactement.
Dire
je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'un effet de strates, de juxtaposition et de gens qui sont capables d'englober tout ça et dont qui expliquent qu'ils vont, oui, illuminer le reste de la société, qui vont en tout cas leur apporter cet éclairage et provoquer ce mouvement par la pensée et puis je pense par la violence aussi, beaucoup quand même.
Eliamine Sétou, cet homme que vous avez suivi, Kylian, est-ce que lui aussi, j'allais dire, sa volonté première, c'était de participer à travers ses attaques, ses violences, de participer à éclairer le reste de la société française?
Il m'expliquait, dans sa conception, on est dirigé par des élites qui sont lâches, qui ont abdiqué, et il considérait que son groupuscule, parce qu'il a monté un groupuscule qui s'appelle OS, était à l'avant-garde d'un combat, et qu'il devait mener ce combat, il faisait partie d'une espèce d'élite, en avance sur les autres, et qu'en montrant l'exemple, la masse suivrait par la suite. Donc il y a vraiment cette idée de, je dirais, d'être à l'avant-garde, et d'être détenteur d'une vérité que les autres ne connaissent pas ou ne connaissent pas encore.
Quelle était justement la nature de cette vérité, s'agissant de cet homme que vous avez écoutez, suivi plusieurs...
Alors, là, il y a un argument qui revient assez souvent dans les mouvements d'ultra-droite, c'est ce concept de grand remplacement. Donc cette idée qu'en fait, il y a une stratégie planifiée, alors on ne sait pas trop par qui, mais une stratégie planifiée de grand remplacement, et que si on n'agit pas aujourd'hui et qu'on ne met pas en place ce concept de rémigration, donc cette idée qui est une déportation, hein, in fine, hein, c'est un mot, on va dire, acceptable pour dire déportation, c'est toute l'Europe qui en pâtira et qui s'effondrera.
Je voudrais qu'on revienne peut-être aussi sur une fausse idée selon laquelle l'extrême droite française s'inspirerait de l'histoire française uniquement, des acteurs qui appartiendraient au champ clos de la société française. Non, ce que vous montrez bien, Baptiste Roger Lacan, c'est que cette extrême droite, plus encore aujourd'hui sans doute, s'inspire de courants internationaux, d'homologues internationaux. Ils sont malgré tout ouverts sur ce qui se passe à l'étranger, du point de vue, j'allais dire là, strictement intellectuel, pas plus.
C'est très visible aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit à quel point l'extrême droite en France réagit, se pense, se constitue par rapport à des courants et des partis européens et extra-européens. Et en réalité, ça, c'est une constante du Rassemblement national. Il y a un des chapitres du livre écrit par Martha Lorimer qui montre que le Front national se constitue d'abord par l'Europe, évidemment contre l'Europe très vite, mais utilise l'Union européenne pour avoir des fonds, des députés, exister en fait comme parti sur la scène politique nationale et crée très tôt des alliances, dès les années 1980. Le premier groupe que le Front national crée au Parlement européen, c'est en 1984, dès son entrée au Parlement. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que cette dimension européenne de l'extrême droite, elle est beaucoup plus ancienne, elle est quasiment consubstantielle à sa naissance, en réalité. Si on considère que la contre-révolution, en tout cas certaines parties de la contre-révolution, sont une matrice de l'extrême droite française, dès la Révolution française, la mobilisation, elle est européenne contre la Révolution française. On voit des gens qui agissent partout sur le continent, qui écrivent partout sur le continent, à commencer par Joseph de Maistre, qui n'est pas français, mais savoyard, qui est sujet du roi de Piémont-Sardaigne. Et ça continue au 19e siècle. Il y a des mobilisations transnationales. Et au 20e siècle, dans l'entre-deux-guerres, notamment, l'extrême droite française, les militants, les intellectuels voyagent partout en Europe pour s'inspirer des modèles étrangers. Ils rapportent ça en France avec un double usage. Le modèle, c'est une inspiration, ça permet d'affiner un peu la ligne idéologique. Et puis, c'est une proof of concept, comme diraient les Américains. Ça permet de dire, regardez, ça marche. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Viktor Orban ou Giorgia Meloni.
Je vous pose la même question, Baptiste Roger Lacan, celle que j'ai posée un peu plus tôt à Eliamine Sétou. Vous expliquez qu'il y a dans cette extrême droite des constantes dans l'histoire, des constantes à l'international également. Malgré tout cela, malgré ces constantes que vous exposez l'un et l'autre avec clarté, pourquoi c'est si difficile, encore une fois, de définir l'extrême droite comme catégorie de science politique ?
Je pense qu'il y a un peu deux choses. D'une part, c'est, en tout cas en France, c'est un mouvement qui a été peu au pouvoir. Donc c'est un mouvement qui se définit beaucoup par ses oppositions, par ses haines, mais on a un peu du mal à définir positivement, pas dans le sens de ce qui est bien ou mal, hein, mais de dire exactement ce qu'ils veulent faire. Donc ça complique quand même un petit peu les choses pour les situer sur tout un ensemble de gradients. C'est la première chose. La deuxième, c'est quand même que dans les 25 dernières années, l'extrême droite a changé, elle a muté en Europe. C'est une bascule qui se situe entre la fin de la guerre froide et le début du XXIe siècle, où tout d'un coup, l'extrême droite a arrêté, du moins en Europe, on peut voir qu'aux États-Unis c'est un peu plus compliqué, mais en Europe, les grands partis d'extrême droite, les grandes plateformes vers lesquelles convergent les votes d'extrême droite, ne portent plus aujourd'hui un discours de destruction de la démocratie libérale.
Mais alors, pardonnez-moi, mais si ces partis évoluent, mutent en profondeur, si les objets de leur haine se transforment également, pourquoi ne pas forger une nouvelle catégorie ?
Parce que la catégorie reste, à mon avis, assez opératoire. Parce que ce qu'on disait, c'est que cet effet de juxtaposition, il demeure en réalité. Le racisme, l'antisémitisme. On voit très bien, par exemple, si on mesure l'électorat Rassemblement National, on voit que c'est à l'heure actuelle le parti dont les électeurs sont les plus prompts à défendre des théories xénophobes et antisémites. Et ça, c'est une constante. On voit que ce parti, quoi qu'en disent ses leaders, continue d'attirer un électorat qui, et de manière, c'est très net par rapport aux autres partis, à défendre ses thèses. Et par ailleurs, l'exemple des législatives de 2024 démontre que malgré toutes les tentatives, ou en réalité l'obsession du RN pour sa professionnalisation, mais qui est pour l'instant complètement inachevée, on voit que malgré toutes ces tentatives, le parti est aujourd'hui encore incapable de proposer 577, un peu moins d'ailleurs, puisqu'il y avait des candidatures Ciotti, candidatures, en étant sûr que ces candidats ne feront pas des sorties racistes ou antisémites. Donc on voit bien qu'en réalité, ce n'est pas des dérapages. Quand il y en a autant, ça fait système. C'est que ce parti a fait varier son discours, mais le fond, ce que décrivait Eliamine, je crois que ce que j'ai tenté de dire aussi, on voit bien que le fond idéologique demeure.
Eliamine, c'est oui, en dépit de toutes ces mutations qui ont été relevées, il y a toujours ce noyau dur, je dirais, de cette conception organiciste. Organiciste, cette pureté identitaire, ce passé un peu mythifié. Je crois que ça, c'est quelque chose qui va persister sur le temps long.
Par ailleurs, Eliamine Setoul, vous faites vous-même la distinction, comme d'autres, mais en tout cas, vous marquez cette distinction entre l'extrême droite d'un côté et l'ultra-droite. Expliquez-nous la différence entre les deux et pourquoi cette distinction vous paraît-elle pertinente et utile.
C'est un terme qui émerge au début des années 90 dans le jargon un peu sécuritaire des services de renseignement français, d'ailleurs qui font référence aux ultras d'Algérie, en fait, hein, des pro-Algérie française. Moi, je l'utilise un peu pour des raisons techniques, parce que je suis dans un établissement qui forme des professionnels et j'ai besoin d'avoir une catégorie pour désigner des acteurs qui se réfèrent à une idéologie, à des idéologies d'extrême droite et qui passent à l'action violente, en fait.
Des professionnels, c'est-à-dire
Des professionnels de plein de secteurs différents, des étudiants, mais aussi des éducateurs, des policiers, des gens des psychologues, des gens de l'éducation nationale, etc. Et j'ai besoin d'avoir une catégorie sur laquelle travailler. Et cette catégorie ultra-droite, pour moi, c'est cette extrême droite qui utilise des modes d'action politique non conventionnels. C'est-à-dire basé sur la violence, la clandestinité, etc. Et c'est là-dessus que je travaille.
Est-ce qu'elle vous paraît pertinente, Baptiste Roger-Lacan, cette notion d'ultra-droite qui, effectivement, rassemble plutôt une dynamique groupusculaire et violente, comme le disait Eliamine Setoul?
Alors, je la trouve intéressante à la mesure où elle permet vraiment de thématiser la violence. Nous, dans le livre, on a plutôt utilisé une distinction extrême droite partisane, extrême droite mouvementiste, avec l'idée que cette extrême droite mouvementiste désigne tous les groupuscules qui, notamment, ne se présentent pas aux élections, en fait, jouent pas le jeu de la démocratie, souvent parce qu'ils en ont pas les moyens, mais aussi parce que eux revendiquent, pour le coup, toujours un rejet assez radical du système et donc d'un supposé système et donc de la démocratie libérale. C'est vrai que le fait qu'ils viennent du lexique sécuritaire en complique un petit peu l'usage quand on passe du côté des sciences sociales, mais dans le livre d'Eliamine, je trouve que c'est très bien thématisé et je pense que ça a une vraie fonctionnalité, notamment dans le cas de Kylian qui lui veut vraiment passer à la violence. Donc ça, c'est ensuite à l'intérieur, c'est un peu 50 nuances d'extrême droite.
Il y a une autre critique qui est souvent adressée à ce concept d'ultra-droite. Je vais vous interroger l'un et l'autre à ce sujet. C'est l'idée selon laquelle cette distinction empêcherait de penser la porosité entre un ensemble de partis d'extrême droite, comme le Rassemblement National ou Reconquête, et les groupuscules qui prêchent la violence, et ces groupuscules qui seraient en réalité, quand on fait de la sociologie de terrain, véritablement connectés à ces partis. Est-ce que cette distinction extrême droite, ultra droite ne vient pas, j'allais dire, abîmer cette idée et dévoyer un peu le réel, Eliamine Sethoul.
Effectivement, on a plusieurs articles scientifiques qui montrent que beaucoup de partis d'extrême droite européens aujourd'hui ont des militants qui développent une espèce de façade acceptable, une façade conventionnelle, et qui derrière vont mener des activités. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le parti politique français qui a le plus de connexions avec des militants condamnés pour fait terrorisme, c'est le RN. Donc ça a été démontré récemment dans un dossier de Mediapart. Donc effectivement, il y a des porosités, qui demandent à être davantage explorées.
Baptiste Roger Lacan sur ce point.
C'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles on utilisait cette distinction extrême droite mouvementiste, extrême droite partisane. Emmanuel Casaju et Marion Jacquet Vaillant qui ont écrit des articles justement sur cette nébuleuse-là, hors RN, montre très bien tous les effets de porosité qui existent entre ces groupes, avec deux tendances. Entre les élections, tous ces groupes tirent à balles réelles sur le RN, expliquent que c'est un parti de traite, qu'ils sont vendus, dénoncent la stratégie de Marine Le Pen, etc. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en période électorale, ces mouvements s'alignent. Alors, il y a eu une petite évolution en 2022, parce qu'ils sont plutôt alignés derrière Éric Zemmour que derrière Marine Le Pen. Éric Zemmour paraissant plus aligné, plus proche de leurs idées. Mais en réalité, on voit que ça circule, et ça circule jusqu'en haut, puisqu'on sait que dans l'entourage le plus proche de Marine Le Pen, on a des figures comme Axel Lousteau, Frédéric Chatillon, qui sont d'anciens gudards revendiqués, toujours proches, pour le coup, de la plus extrême des droites, qui sont vraiment... qui n'ont aucun problème à défendre, dont on sait qu'ils sont néofascistes, et que c'est assumé et revendiqué comme tel. Donc, on voit bien que les effets de porosité, ils sont très nombreux à tous les niveau, ce qui répond un peu à l'idée, c'est pour ça que je pense que ce terme d'extrême droite reste à mon avis très pertinent aujourd'hui, parce que je pense que la continuité, elle est toujours là.
Ce qui est passionnant dans votre ouvrage, Eliamine Sethoul, intitulé, je le rappelle, « Suprémaciste, anatomie d'un parcours d'ultra-droite », c'est que vous appliquez ce schème, cette matrice de la radicalisation, mais non pas à des personnes qui se radicalisent en fonction des idées islamistes. C'était un travail, un ensemble de travaux que vous avez mené il y a quelques années, il y a quelques mois. Dans cette fois-ci, vous appliquez cette thématique de la radicalisation aux individus dû au parcours d'extrême droite. Alors expliquez-nous pourquoi et comment imaginer que cela puisse fonctionner avec, avec la même force et de la même façon.
Oui, en fait, j'avais travaillé pendant une décennie sur la radicalisation à référentiel djihadiste et je voulais voir dans quelle mesure les outils conceptuels forgés dans l'analyse du djihadisme étaient opérants, étaient valables pour comprendre l'ultra-droite. Et pour la petite anecdote, lors de mon premier rendez-vous avec Kylian en prison, il me dit, je suis en tête-à-tête face à lui dans le parloir, il me dit, j'ai été 9 mois à l'isolement avec le djihadiste Sidam Edglam et je m'entendais très bien avec lui. J'avais une très bonne relation avec lui. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre cette convergence. En fait, quand on creuse, on voit qu'il y a des failles identitaires, des failles narcissiques, des désirs de restauration narcissique. Il y a le rôle d'Internet aussi qui est très présent. Il y a la volonté de se battre pour une grande cause. Ça, c'est très très présent, se battre pour une cause transcendante. Dans un contexte, on le sait aujourd'hui, quand vous avez 20 ans en France, il n'y a pas de grand récit mobilisateur, avec l'effondrement du communisme, les impasses du néolibéralisme. On sent une jeunesse qui en demande aussi d'horizons mobilisateurs, de grands récits, etc. Et tout ça, ça réunit à la fois, je l'ai vu chez les djihadistes, et je l'observe chez ces militants.
Est-ce que vous diriez qu'il y avait également, entre ces deux hommes, et seulement à travers le regard de Kylian, une estime mutuelle?
Oui. Oui, parce que ils se percevaient tous les deux comme des gens capables de passer à l'action pour une cause qui les transcende.
Qu'est-ce que vous en pensez, Baptiste Roger Lacan? Je sais que vous avez lu cet ouvrage, hein, « Suprémaciste, anatomie d'un parcours d'ultra-droite ». Justement, cette matrice de la radicalisation, est-ce qu'elle vous semble pertinente pour analyser, éclairer ces trajectoires qui vont vers l'extrême droite?
Bah, en tout cas, je trouve que ça fonctionne très bien dans le livre. Et je trouve que ce que décrivait Yamine à l'instant est passionnant. Ça fait aussi écho à un thème obsessionnel au sein de l'extrême droite, qui est le thème du combat, de la fierté combattante, qui est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs générations. Et ça, là, ce que vous disiez me faisait penser à tout un élément de la mémoire collaborationniste, notamment de la mémoire milicienne, où dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, ils expliquent, ils tentent de recomposer leur engagement en expliquant qu'ils combattaient face à des adversaires, mais qu'il y avait une sorte de respect des deux côtés, qu'ils étaient engagés, qu'ils étaient dans deux parties d'une guerre civile européenne, et que il y avait presque une sorte de logique combattante qui avait été trahie en 45, et que tout d'un coup ils avaient été traités comme des parias. Alors évidemment, c'est un discours apologétique qui vient masquer les horreurs qui ont été fait commise par la milice entre 43 et 45. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a évidemment une part de justification, une part tactique. Mais je pense que ça s'inscrit aussi dans un discours auquel ils finissent par croire, en fait, ce fantasme du combattant et du respect dû entre les combattants, qu'on retrouve aussi chez les anciens de l'Algérie française.
Le côté un peu chevaleresque, le sens de l'honneur.
La fascination qu'on peut retrouver pour Abdelkader chez les obsédés de l'Algérie française, où ils recomposent la mythologie de la conquête. Enfin, il y a cette idée que, une fois de plus, c'est une pensée qui est très hiérarchique. Et au sommet de cette hiérarchie, il y a parfois des penseurs, des maîtres, typiquement Maurras, avant lui Joseph de Maistre, et puis il y a les combattants, en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très transversal, cette idée que en tout cas au XXe siècle, cette idée au début du XXe siècle, cette idée que la violence anoblit. Je pense que ça marche très bien et je trouve que c'est très bien saisi dans le livre d'Eliamine.
Vous évoquiez, Eliamine Sethou, le rôle d'Internet justement dans l'accélération de cette radicalisation d'extrême droite. Voilà ce qu'écrivent deux chercheurs, François Debras et Pierre Vouet, à ce sujet. Je les cite. Actif depuis les débuts du web 2.0, investissant des montants colossaux, recourant à des experts proposant des contenus jeunes et dynamiques, mobilisant de nouvelles formes d'expression, de nouveaux langages codés, l'extrême droite semble bien avoir gagné la bataille numérique. La domination des partis politiques d'extrême droite sur le web est à la fois historique, quantitative et qualitative. Ainsi, à titre d'exemple, en France, le Front National est le premier parti politique à se doter d'un site internet en 1996, mais est également l'une des premières formations politiques à ouvrir un compte sur Facebook en 2006. Eliamine Sethou, si l'on reprend la trajectoire que vous décrivez, celle de Kylian, comment son embrigadement vers l'extrême droite s'est-il déroulé ?
Alors en fait, c'est un jeune qui est stigmatisé en école primaire et au collège. Du coup, il est relativement isolé, il se replie sur Internet, et sur Internet, il fréquente ces technologies conversationnelles qui lui permettent de discuter avec des individus. Et il rencontre comme ça des jeunesses nationalistes sur Internet, qui deviennent une forme de communauté virtuelle, une familiale un peu chaleureuse. Et progressivement, avec le principe d'enfermement algorithmique, donc le fait qu'Internet vous propose de plus en plus de sites sur le nationalisme, etc., il y a une espèce d'effet surgénérateur aujourd'hui avec Internet. Et c'est la grande nouveauté entre aujourd'hui et il y a 20 ans, c'est qu'Internet cristallise de plus en plus les tentations radicales et a un effet surgénérateur. Et ce qu'observent également les spécialistes aujourd'hui, c'est qu'ils voient de plus en plus de jeunes plus radicaux qu'avant, plus radicalisés qu'avant, et moins construits idéologiquement, en fait. Donc ils sont abreuvés de vidéos, ils sont abreuvés d'images, ils sont abreuvés... Et parfois, on a l'impression que c'est surtout la radicalité plus que l'idéologie.
Baptiste Roger Lacan, c'est peut-être contre-intuitif l'idée selon laquelle l'extrême droite est à l'avant-garde technologique. Comment est-ce qu'on l'explique historiquement ? Est-ce que vous êtes d'accord vous-même avec cette idée que, culturellement, l'extrême droite a gagné pour le moment sur Internet ?
C'est assez manifeste en réalité, hein, quand on regarde. Ce qui est fascinant, c'est qu'à la fin des années 2000, il y a une campagne qui était triomphale de Barack Obama, qui a été gagnée largement par Internet. Je pense que c'est une des dernières victoires du camp progressiste au sens très très large, où ils ont été très dynamiques sur Internet. Alors par exemple, on voit qu'en réalité, c'était aussi parce que la Silicon Valley était, les grands leaders de la Silicon Valley étaient à l'époque très alignés avec le Parti démocrate. Leur désalignement, qui est de plus en plus manifeste, je pense, participe aussi disons que le terrain est plus si égal aujourd'hui, et qu'il y a quand même, les algorithmes tournent quand même beaucoup plus en faveur des partis conservateurs et des partis d'extrême droite. Plus généralement, cette aisance de l'extrême droite avec les moyens de la modernité, c'est quelque chose qu'on a remarqué, c'est intéressant, c'est des conversations qu'on a eues avec les auteurs du livre. Au début, on arrivait chacun avec un peu nos travaux, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de jeux d'écho, et notamment sur cette question des usages de la modernité. Peut-être là où c'est le plus frappant, c'est entre le milieu du 19e et les années 1920-1930, où on voit que là, on a une extrême droite qui... est quand même puissamment anti-moderne, en tout cas qui déteste la modernité issue de la Révolution française, que son visage soit socialiste ou libéral, mais qui est très à l'aise pour utiliser les outils de la modernité contre cette même modernité, que ce soit la presse de masse, qui est largement investie par les catholiques intransigeants, que ce soit des systèmes de levée de fonds très complexes dans les années 1860 qui permettent de financer des mobilisations. Et ça se multiplie. Et c'est un peu cette idée, je trouve, qui est très bien définie par Jeffrey Herf dans son livre sur le modernisme réactionnaire, qui est un livre qui est paru il y a une trentaine d'années sur l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, où, à mon avis, il thématise très bien comment le progrès technique et technologique est utilisé comme un levier pour détruire le progrès social. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on finit par retrouver jusqu'à aujourd'hui. Je pense que
c'est-à-dire quel lien entre l'un et l'autre?
Je pense que c'est le cœur du projet d'un Elon Musk ou d'un Peter Thiel, qui sont fascinés par les potentialités de la technologie pour aller balayer, pour vraiment aller fracasser une modernité dont il déteste à la fois le versant politique, c'est-à-dire le libéralisme politique qui vient fonder nos institutions en Occident, dont il déteste l'idée de progrès social dans lequel il ne croit pas, et dont en réalité, eux, ce qu'ils voient, les potentialités du numérique pour elles, c'est justement le moyen de rétablir une société hiérarchisée, inégalitaire, illibérale, violente en fait, parce que pour le coup ils n'ont aucun problème à beaucoup plus d'ailleurs qu'en Europe. L'extrême droite américaine est beaucoup plus claire, elle est beaucoup plus, en un certain sens, beaucoup plus chimiquement pure dans son rapport à la violence. Donc je pense qu'en fait cet usage de la modernité technique contre la modernité politique est un peu une constante de l'extrême droite.
Sur le rapport à la violence, je vous cite cette fois-ci Eliamine Setoul, voici ce que vous écrivez. Si le djihadisme a provoqué 73 attentats, causé la mort de près de 260 personnes en France au cours de la dernière décennie, l'ultra-droite en comparaison n'aurait été responsable que moins d'une dizaine de décès sur la même période. Fin de citation. Pourquoi justement cette violence d'ultra-droite réelle que l'on compare parfois à la violence djihadiste reste tout de même un angle mort dans le champ médiatique, dans le champ aussi en partie, même si c'est de moins en moins vrai, des pouvoirs publics?
Alors je préciserais que c'est le cas en France, mais vous avez des pays comme l'Allemagne où l'ultra-droite est prise autant au sérieux que, enfin, la menace d'ultra-droite est considérée comme aussi sérieuse que le djihadisme. Dans les pays nordiques, Suède, Finlande, Norvège, l'ultra-droite attire plus l'attention que le djihadisme. Donc ça, je dirais que c'est très variable d'un pays à l'autre. Je pense tout simplement qu'on n'a pas eu, d'une part, de grands drames nationaux. On n'a pas eu l'équivalent d'un Christchurch en Nouvelle-Zélande ou ce qui s'est passé en 2011 en Norvège, la tuerie du Toya qui a fait 77 morts. Ça, je pense que ça explique pas mal de choses. Et puis après, culturellement aussi, peut-être cette idée de menace, on l'associe à l'extérieur, et le djihad étant vu comme un élément civilisationnel extérieur à la France, c'est peut-être plus facile de les identifier, je dirais, comme menace, comme ennemi. Et puis un autre élément aussi, c'est qu'il y a parfois des crimes de haine racistes qui passent en dessous des radars des services, je dirais, antiterroristes.
Qui ne sont pas qualifiés, vous voulez dire, de la sorte.
Et qui peut-être seraient qualifiés dans le cadre d'une attaque djihadiste, par exemple.
Baptiste Roger Lacan, sur cette violence d'extrême droite, est-ce que là aussi c'est un point mort, un point aveugle de la part, j'allais dire, d'une pluralité d'acteurs médiatiques, publics et peut-être sans doute même citoyens?
Il me semble que ça l'est depuis les années 60-70. Je pense que ça a été très thématisé pendant la guerre d'Algérie, dont on sait qu'elle n'a pas été seulement un conflit qui s'est déroulé en Algérie, mais que c'est en fait un conflit qui s'est aussi étendu à la métropole. Donc cette violence-là a été très thématisée à l'époque. Elle l'a été dans les années 70, qui avait quand même l'exemple notamment de l'Italie, où on surveillait un petit peu ce qui se passait. Et donc il y a eu une attention plus grande qui a été portée à ça. C'est sûr que dans les 30 dernières années, le sujet est un petit peu passé au second plan, notamment, je pense qu'il y a peut-être pas, c'était intéressant qu'Eliamine évoque l'exemple allemand, je pense que l'Allemagne, pour l'instant, maintient encore très vivace, et heureusement, la mémoire du nazisme et le poids que le nazisme représente dans la société allemande. Je pense qu'en France, on commence à sentir aussi les effets d'un éloignement générationnel, alors qui est peut-être d'ailleurs plus fort dans le cas de la guerre d'Algérie que pour Vichy, c'est-à-dire que, alors même que la guerre d'Algérie s'est passée après, je pense que la prise en charge sociale de la mémoire d'Algérie, mis à part dans les groupes qui sont concernés, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que Kylian est obsédé par l'OS, par ses origines tunisiennes, mais en fait il se rattache au pied noir d'Algérie. C'est intéressant de voir comment c'est reconfiguré dans certains groupes, mais c'est plus vraiment pris en charge par la société française.
Pour être tout à fait complet, aujourd'hui il y a des dispositifs embryonnaires au niveau de la pénitentiaire pour créer par exemple des quartiers spéciaux radicalisation d'ultra-droite. Donc ça, c'est en pleine réflexion. Au niveau de la DGSI, on commence à avoir des spécialistes sur l'ultra-droite.
La menace d'ultra-droite est pas plus les qualifier.
C'est quand même quelque chose qui est pris de plus en plus au sérieux par les acteurs professionnels.
Comment est-ce qu'en tant qu'historien, Baptiste Roger Lacan, vous appréhendez, analysez l'affirmation qu'on entend de plus en plus, selon laquelle l'extrême droite, au fond, on n'a jamais essayé?
C'est un peu ce que j'essaye de dire dans l'introduction du livre, c'est-à-dire que c'est pas pareil d'écrire une histoire de l'extrême droite, je pense. C'est pas pareil d'écrire sur l'extrême droite, d'ailleurs, aujourd'hui, que ça l'était il y a encore 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, on est face à... On analyse plus seulement l'histoire d'une catégorie politique, l'histoire d'un mouvement, par ailleurs, qui est vivant, mais on travaille aussi sur un objet qui est peut-être en train de devenir notre horizon. C'est un peu ça qui est inquiétant. Donc ensuite, je pense que... voilà, ça touche justement au rôle du chercheur quand on sort aussi de notre travail de recherche et d'écriture, mais du travail un peu de médiation, d'intermédiation qu'on peut jouer dans la société. Je pense qu'on peut au moins essayer de rappeler des choses, de rappeler ce que c'est que l'extrême droite, de rappeler d'où vient le Rassemblement National, ce parti a une histoire, a une généalogie qui est très nette, dont Marine Le Pen est l'héritière, dont toute une partie de son entourage est l'héritier. Mais j'ai pas de réponse absolue, je pense que...
Mais est-ce que c'est vrai déjà, lorsque l'on dit on n'a jamais essayé, c'est faux dans certaines villes de France qui sont dirigées par le Rassemblement National, c'est faux dans l'histoire également, le Rassemblement National de manière éparse a eu certaines responsabilités, c'est une affirmation qui est fausse.
Alors c'est faux à l'échelle locale complètement, et par ailleurs à l'échelle locale, ce qui est fascinant, c'est que 95% du temps c'est un désastre, mais ça, pour l'instant ça ne passe pas vraiment la barre médiatique, on le sait, hein, il y a vraiment c'est documenté, à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir dans une mairie, ça se passe mal. Et puis, à l'échelle nationale, c'est arrivé à deux reprises, mais à chaque fois, après une défaite militaire massive, donc à la Restauration, si on considère que les ultra-royalistes de la Restauration sont une matrice de l'extrême droite, et puis en 1940, évidemment, avec le régime de Vichy. La rupture aujourd'hui, c'est que si jamais le Rassemblement National réussissait à arriver au pouvoir, ne serait-ce déjà qu'à prendre un exécutif régional, mais mettons à prendre le pouvoir et à être élu à l'échelle nationale, ce serait la première fois qu'il prendrait la majorité par les urnes, sans passer par la violence et sans qu'il y ait une invasion qui ait quand même complètement déstructuré la société française. Donc ça, c'est une vraie rupture à thématiser.
Et Lamine, c'est tout radicaliser d'extrême droite, Kylian, que vous avez suivi et écouté, est-il récupérable au-delà de sa situation judiciaire? Je parle vraiment du plan idéologique.
Je pense qu'il est resté radicalisé d'un point de vue cognitif, mais que, comme chez les djihadistes,
qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ses idées, il les maintient, mais il va considérer qu'il faut utiliser les méthodes d'action politique conventionnelles, donc le vote, etc. Mais il va continuer à militer dans ces idées-là.
Il ne faut plus dynamiter des mosquées et attaquer des restaurants, des responsables politiques, mais utiliser la voie conventionnelle.
Tout à fait, c'est un petit peu ça. Et c'est quelque chose que j'ai vu d'ailleurs chez des islamistes, hein, qui vont quand même considérer que idéalement, il faudrait vivre dans un système califal, mais qu'ils renoncent à l'action violente. Et donc ils gardent leurs idées, ils renoncent à la violence, parce que souvent, l'expérience carcérale a été quand même assez marquante.
Est-ce que ça ne vient pas démontrer justement cette porosité entre ce que vous appelez l'ultra-droite d'un côté, l'extrême droite plus classique, traditionnelle de l'autre?
Oui, il y a porosité. D'ailleurs, je l'ai cité à travers le RN. Aujourd'hui, reste le parti quand même le plus marqué par des expériences de militantisme terroriste.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir dans Question du Soir pour décrire la pluralité des formes que prend aujourd'hui l'extrême droite et ses mutations. Baptiste Roger Lacan, historien, enseignant à l'Institut catholique de Paris ainsi qu'à Sciences Po Paris. Vous avez dirigé l'ouvrage formidable intitulé Nouvelle histoire de l'extrême droite, France 1780-2025, c'est aux éditions du Seuil. Et Eliamine Setoul, maître de conférences en sciences politiques au Conservatoire des Arts et Métiers, responsable d'un programme autour des radicalisations. L'auteur de cet ouvrage tout aussi passionnant, intitulé « Suprémaciste, anatomie d'un parcours d'ultra-droite », c'est aux éditions Université Paris Cité. Et merci à celles et ceux qui ont pensé et préparé cette émission, Antoine Héral, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancey et Juliette Mouélic. À suivre, juste après le journal, à la suite de la grâce de l'écrivain de Boualem Sansal, « Comment comprendre le choix d'Alger ?»